Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans Le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. On s'est déjà posé dans ce podcast la question du rôle et de la place qu'occupe l'information en cette période de confinement. Maintenir un accès à une actu de qualité, continuer de faire son boulot de journaliste, permettre aux lecteurs, aux lectrices, aux auditeurs, aux auditrices de ne pas manquer l'essentiel, tout ça est crucial et on a eu l'occasion d'expliquer pourquoi. Mais on a eu envie d'affiner encore un peu plus notre réflexion et de creuser le cas très particulier de la presse papier. Les journaux traditionnels qu'on annonce moribonds depuis près de 20 ans sont encore là et ils ne manquent pas d'idées pour tenir le choc, même et surtout lorsque les défis s'accumulent. Par exemple, lorsque leurs sujets de prédilection sont mis en stand-by ou lorsqu'aux questionnements éditoriaux s'ajoutent des problématiques industrielles très concrètes. Comment les canards passent-ils la vague ? Oui, ce jeu de mots est tout à fait assumé. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour illustrer la capacité d'adaptation de la presse traditionnelle, on a choisi deux exemples bien spécifiques. Deux vénérables représentants du papier, respectivement âgés de 74 et de 75 ans. D'un côté, L'Équipe, le quotidien sportif. De l'autre, Le Télégramme, le quotidien régional breton. L'un comme l'autre ont dû se réinventer en très peu de temps. Et j'ai commencé par en discuter avec Jérôme Cazadieu, directeur de la rédaction de L'Équipe. Je lui ai demandé comment le journal a abordé la crise en sachant qu'elle entraînait notamment cette crise, la suspension à durée indéterminée de tous les événements sportifs, soit le cœur éditorial du journal.
Nous, on a eu, je dirais, dans notre malheur, la chance d'avoir des annulations de compétition qui sont arrivées assez tôt. Et je dirais l'exposition au Covid, on l'a eu assez rapidement, puisque dès le début du mois de février, il y a certaines compétitions qui ont été reportées, en tout cas avec des cadres qui étaient des cadres beaucoup plus stricts d'organisation. Donc on a assez vite compris que le sport allait s'arrêter. Et donc je dirais que sur l'organisation de la rédaction, on a travaillé dès le début du mois de mars à la mise en place d'un transfert total de notre activité en télétravail. À savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne à l'équipe, hors un tout petit peu la chaîne. On n'a personne sur le print et personne sur le numérique qui travaille au siège. Tout le monde est en télétravail. Le deuxième élément, donc, en effet, qu'il fallait surmonter, c'était l'absence de compétition sportive. Comment on allait être capable d'avoir un journal sans événements sportifs? Et en fait, on se rend compte que, comme toujours, quand on est face à des enjeux un peu inédits, la rédaction a toujours été capable de trouver des idées et de proposer, en fait, un contenu qui est plus profond sur, le fonctionnement du sport, avec beaucoup plus d'histoires. Voilà, on a cherché un maximum d'histoires qui étaient liées à cette actualité triste, notamment, on a un certain nombre de sportifs ou d'anciens sportifs qui sont mobilisés d'une manière ou d'une autre pour lutter contre le coronavirus. Et puis, qu'on le veuille ou non, il y a quand même l'actualité. Les entreprises de sport ne s'arrêtent pas, les sportifs ne s'arrêtent pas de faire du sport. Et donc, on a pas mal de sujets qui nous remontent régulièrement, d'informations. On a réussi à sortir pas mal d'infos pour essayer de nourrir, de créer un fil nouveau avec nos lecteurs, qui soit un fil qui soit continu. Et ça va faire bientôt presque trois, ça fait plus de trois semaines qu'on est en télétravail, plus de presque un mois la semaine prochaine, nous n'avons pas d'événements sportifs et on a réussi à faire pas mal de coups qui se sont matérialisés notamment par de très belles lunes.
Comment est-ce qu'on anticipe, du coup, dans une période d'incertitude comme celle dans laquelle on est, comment est-ce qu'on anticipe les possibles, enfin, on va dire, le possible enlisement de la situation, le fait que ça puisse durer? Comment est-ce que vous vous projetez à l'équipe dans l'avenir? Ou peut-être que justement vous évitez de trop vous projeter pour ne pas trop être déchanté, justement?
En fait, on se dit souvent à la fin d'une semaine comment on va faire, être capable de faire un journal dans 10 jours. Et puis en fait, à la fin de la semaine suivante, on est toujours à se dire, en fait, non, on a tout le temps des sujets. Là, par exemple, pour les journaux qui vont venir, on a même une concurrence de sujets pour aller à la une. C'est-à-dire, on va devoir sûrement sacrifier un ou deux sujets qui ne seront pas des unes, mais qui seront des relances peut-être au sein du journal, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses, en fait, qui nous sont proposées ou qu'on imagine avec les responsables des différents services. Donc, je pense qu'on n'aura pas de difficulté à proposer des sujets, en fait. On est sur un journal qui est un journal de 24 pages par jour. C'est 24 pages presque intégralement, 24 pages éditoriales, puisque nous avons peu de pubs en ce moment. C'est pas très loin, ou c'est assez proche même, je dirais, de la pagination éditoriale que nous avons les étés en dehors des événements sportifs. Donc ça veut dire qu'on a quand même une capacité à proposer des sujets différents. Et ce que je trouve intéressant, et peut-être qu'on devra être capable de l'infiler dans le prochain équipe quand les événements sportifs reprendront, c'est justement cette part de sujets qui ne sont pas liés directement à un calendrier sportif qui peut-être a pu parfois nous rendre, je ne vais pas dire feignant parce que le terme est sûrement trop fort, mais un peu trop facile, voilà, et de se dire voilà, on a toujours un événement qui va nous permettre de nous porter. Et voilà, donc on cherche vraiment à essayer d'être même dans une forme de dosage entre des histoires un peu plus profondes au long cours, des enquêtes, on a fait beaucoup d'enquêtes, et je dirais des initiatives qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent. Alors voilà, c'est comment on est capable de mieux repenser le lien qu'on a avec notre lecteur, en essayant de mettre en place des dispositifs un peu plus horizontaux qui leur permettent de mieux nous connaître et nous de mieux les connaître.
Ça passe par quoi, justement, ces dispositifs, ce rapport au lectorat? C'est quel genre de choses qui sont mises en place pour être plus dans l'échange, justement, plus dans quelque chose de plus horizontal?
Alors, par exemple, on avait développé, mais on l'avait un peu laissé en sommeil, un appel à témoins qui nous permet, en fait, de mieux recueillir un peu les envies ou les pensées de nos lecteurs par rapport à des thématiques qui peuvent être des thématiques qui les concernent directement. Donc là, pour la semaine prochaine, dans la perspective de la fin de semaine, autour du 16, 17, 18, 19 avril, on a lancé 2-3 sujets qui vont vraiment nécessiter d'avoir recours, je dirais, au talent et aux connaissances de nos lecteurs. Donc, notamment sur comment ils vivent cette période-là sans événement. Est-ce que ça leur manque? Comment justement ils ont trouvé des palliatifs pour les plus drogués, on va dire, et les plus fans de sport de nos lecteurs? On s'intéresse aussi à la conséquence, je dirais, des quelques conséquences positives de la situation dans laquelle on est plongé. On voit bien que les Français vont se remettre davantage au sport parce que d'abord ils peuvent pas en faire beaucoup, donc l'activité physique est importante. Ils ont leurs enfants pour la plupart à la maison. On voit aussi que il est quand même recommandé d'être plutôt en forme physique si on veut être moins exposé au risque de maladie. Donc voilà, ça c'est aussi un autre élément. On essaie de trouver là un certain nombre d'histoires avec des lecteurs qui, des internautes ou des mobinautes aussi, qui ont trouvé des moyens alternatifs de faire du sport, en famille, de faire du sport en couple, dans leurs univers, chez eux, à la fois dans leur salon, si parfois ils ont un jardin, sur leur terrasse ou leur balcon, s'ils ont parfois un balcon. Et ça, on essaie de le faire, je dirais, sur toutes les catégories socioprofessionnelles, un peu dans tous les coins de France, et on a pas mal de choses qui commencent à nous remonter. Donc voilà, on va essayer d'être un peu plus participatif, autant que possible, en essayant de faire en sorte de ne pas demander à nos lecteurs de répondre à des questions auxquelles ils ne pourraient pas répondre. Voilà.
C'est quelque chose qui pourrait rester après dans le journal? C'est une expérience qui va modifier les habitudes éditoriales de l'équipe?
Je pense que oui, la durée du confinement va faire que le journal ne sera pas le même quand on reviendra en déconfinement. Évidemment que nous traiterons de nouveau des événements sportifs, mais je pense que la part du show essentiel versus, je dirais, je vais pas dire un froid parce que ça pas tellement, enfin c'est pas froid non plus, mais je dirais sur un travail plus d'enquête, d'analyse, de profondeur. Je pense qu'il va falloir qu'on rééquilibre davantage la promesse éditoriale que nous avions.
Autre exemple donc de réorganisation tambour battant, celle qui a bien dû mener la presse quotidienne régionale, la PQR comme on dit. Alors chauvinisme oblige, ça vous étonnera pas, j'ai choisi d'en causer avec Samuel Petit, directeur de la rédaction du Télégramme, le journal breton où, soyons totalement transparents, j'ai moi-même fait mes débuts il y a 15 ans. Comme à nos confrères de l'équipe, je lui ai demandé de me raconter la façon dont les choses se sont mises en place chez eux.
On se retrouve dans une situation à devoir adapter une industrie et une énorme rédaction en quelques jours, voire en quelques heures, pour l'adapter à cette situation inédite. L'enjeu, c'est de couvrir cette actualité monosujet avec des moyens qui inévitablement réduisent des capacités à déployer 215 journalistes, en l'occurrence au Télérama, et puis 450 correspondants locaux qui couvrent l'actualité de 800 communes. Bah, tout d'un coup, en quelques heures, il faut redéployer toutes ces personnes et puis essayer de comprendre avec elles comment, à distance le plus souvent, on parle de ce quotidien totalement perturbé. Un quotidien totalement perturbé, mais qui, malgré tout, nous ramène aux racines de ce qu'on sait faire, parce que le quotidien qu'on vit en Bretagne comme dans les autres régions, bah, c'est tout simplement des soucis de santé, évidemment, des soucis de transport, des soucis de travail, des soucis d'éducation. Et tous ces sujets dont sont friands les lecteurs dans un quotidien de proximité, un quotidien régional, comme une autre, tout d'un coup tous ces sujets sont exacerbés et on doit être beaucoup plus exigeant sur l'ensemble de ces thématiques de proximité, si on peut les appeler comme ça. Donc c'est à la fois une réorganisation totale de la rédaction et puis en même temps une concentration très forte sur ce qui fait la nature même d'un quotidien régional. On a fait évoluer notre organisation de manière progressive les 10 premiers jours du confinement. Nous avons réussi à maintenir 9 éditions du Télégramme au lieu de 19, donc sur les 3 départements bretons que sont le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan. Donc pendant 10 jours, 9 éditions qui nous ont permis de publier encore 120 à 130 pages locales tous les jours sur l'ensemble des communes, parce qu'on a considéré qu'au début du confinement, il y avait encore énormément de choses de proximité à raconter, des communes qui devaient s'adapter à cette situation de crise et avec beaucoup de choses à raconter par nos correspondants locaux et nos journalistes. Et puis au bout de 10 jours, nous sommes passés à 4 éditions, donc une par département, deux dans le Finistère, qui est un grand département géographiquement et en termes de population. Pourquoi passer à 4 éditions? Tout simplement pour faire des économies d'échelle, fonctionner avec une seule rotative au lieu de deux, fonctionner avec une seule équipe de rotativistes, d'imprimeurs, au lieu de deux, pour les protéger sanitairement. Et puis imprimer le journal un tout petit peu plus tôt pour en favoriser la distribution par nos 700 vendeurs colporteurs de presse. Et puis adapter chacune de nos rédactions. L'ensemble de nos agences locales, 21 agences en l'occurrence, sont restées ouvertes, mais avec une présence nettement moindre, puisque la plupart des journalistes sont en télétravail. Et dans nos chefs-lieux de territoire, c'est-à-dire un peu nos grosses agences, qui sont 7 en Bretagne, on a maintenu des équipes de 3 à 4 de journalistes qui sont présents physiquement à l'agence. Enfin, au siège du journal, où travaillent habituellement 70 à 75 journalistes, nous ne sommes plus qu'une petite quinzaine, les autres journalistes étant en télétravail. Donc l'enjeu était aussi de toiler l'entreprise, la toiler économiquement, puisqu'il y a du chômage partiel au Télégramme, comme dans la plupart des médias aujourd'hui, y compris à la rédaction.
Tu as touché du doigt une partie qui moi, m'intéresse grandement, c'est le côté industriel, justement, sur la fabrication du journal. Est-ce qu'on peut, peut-être pour ceux qui ne sont pas familiers du monde de la presse, expliquer un peu quel est le processus? Parce qu'il y a donc la rotative, les colporteurs, c'est toute une organisation très spécifique.
C'est une industrie millimétrée qu'on aurait bien d'ailleurs du mal à recréer de toutes pièces s'il fallait le faire. Si un investisseur un jour voulait recréer toute l'industrie d'un quotidien régional en quelques mois, je crois qu'il n'y arriverait pas. C'est une organisation très fine. Il faut démarrer des rotatives à 22h30, 23h pour imprimer 190 000 journaux tous les soirs. Des journaux qui sont imprimés environ 4 heures et qui sont expédiés progressivement vers l'ensemble de nos points de vente, 2100 points de vente, 94% de ces points de vente sont restés ouverts en cette période de coronavirus. Les points de vente, ce sont des boulangeries, des kiosques, évidemment, des bars tabac, des hypermarchés, etc. Et puis, expédier 150 000 de ces 190 000 journaux dans la boîte aux lettres de chacun de nos lecteurs avant 7 heures du matin. Aucun de nos vendeurs colporteurs de presse n'a abandonné son poste, si on peut dire. Ils sont tous présents, ils sont même fiers de distribuer le journal. Ils distribuent le journal environ entre 4h30 du matin et 7h, et ces 700 vendeurs colporteurs de presse arrivent toujours à distribuer nos 150 000 journaux dans la boîte aux lettres. C'est une industrie très très lourde, très particulière, mais qui étonnamment continue de fonctionner très bien dans cette période de crise.
Est-ce que dans ce type de crise, elle ne trouve pas tout son sens, la presse régionale, dans le sens où elle incarne une forme de lien social qui a longtemps été son moteur ?
Alors tout d'un coup, on a l'impression que notre journal, mais tous les autres quotidiens régionaux aussi, se retrouvent de nouveau au milieu du village. Alors non pas qu'on ne l'était plus, puisque la Bretagne est encore une très forte lectrice de quotidiens régionaux, mais c'est vrai que le journal, qui peut-être commençait à perdre un peu de sa place dans la vie locale, tout d'un coup, il redevient ce média essentiel, ce média de qualité, il faut le rappeler, ce média de référence, et qui permet aux gens de garder des repères et de garder le lien social, comme tu viens de le dire. Et étonnamment, alors qu'on a développé le digital de manière exponentielle ces dernières années, avec de très fortes audiences et des abonnements numériques qui sont en forte hausse, le journal papier devient un objet de lien social, un objet physique qui relie les gens entre eux et qui apporte une autre nature d'empathie et de lien social que le numérique finalement. Je vais prendre un exemple, on a lancé une rubrique qui s'appelle « Je pense à vous » qui permet à nos lecteurs d'envoyer un petit message à ceux qu'ils ne voient plus, à leurs parents, ou envoyer un message de soutien à des soignants, à des personnes qui continuent de travailler. Ça remporte un succès énorme, on en est déjà à plus d'un millier de messages. Et ces messages, on les publie dans le journal papier. Et on mesure bien l'empathie que ça provoque bien au-delà des réseaux sociaux. Un post sur Facebook et la photo du grand-père ou la photo des petits-enfants dans le journal, ça n'a rien à voir. Ça ouvre la solidarité à toute autre dimension que les réseaux sociaux.
Tu as mentionné le numérique, il y a forcément aussi là une adaptation à trouver, parce que l'offre numérique reste importante dans cette période où on est aussi beaucoup vissé à nos écrans et à nos ordi et nos smartphones. Comment vous vous êtes adapté de ce point de vue-là ?
Alors, on a renforcé nos moyens sur le digital, tout simplement parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une demande très forte d'informations en direct, et puis une demande très forte d'informations en profondeur. Et puis des lecteurs qui se mettent à s'abonner à des offres digitales aussi. C'est la grande et belle nouvelle de la crise, c'est que quand on est confiné, qu'on n'a pas forcément la culture de lire un journal papier, on découvre ce qu'est un média régional digital et on finit par s'y abonner. Et vous savez que le modèle économique de nombre de médias, et notamment la presse régionale, c'est de développer une communauté de lecteurs abonnés sur le digital pour assurer un revenu qui permette de faire fonctionner l'industrie dont je viens de vous parler, et puis de payer des rédactions importantes, des rédactions de proximité, qui évidemment ont un coût.
Si on en revient juste brièvement pour terminer au papier, on parlait du rôle social du journal tout à l'heure. Il y a également une utilité très concrète de la presse papier dans ces périodes-là où on retrouve tout l'intérêt serviciel que peut avoir une presse locale, quotidienne, régionale. Je pense notamment à un exemple très concret qui est celui des autorisations, des dérogations pour pouvoir sortir de chez soi, que plusieurs journaux, dont le Télégramme, ont choisi d'imprimer directement dans leur page pour les lecteurs et les lectrices qui n'avaient pas forcément d'outils pour imprimer ça chez eux et pour la rendre accessible à tous.
Alors en effet, on a cette vraie culture du service. C'est pour ça qu'on a eu l'idée dès les premières heures de l'attestation de la mettre en ligne et de la mettre dans le journal papier. En ligne, c'est 500 000 qui ont été téléchargés en quelques jours sur le site du Télégramme. Et puis dans le journal papier, on en met deux tous les jours, ce qui permet aux personnes qui n'ont pas forcément une imprimante, qui n'ont pas forcément un ordinateur, de disposer de leur attestation. On est dans un vrai service. Cette notion de service, elle va au-delà de ces attestations. On a une grande culture au Télégramme de l'infoservice. C'est quoi l'horaire de ma mairie? C'est quoi les heures de réunion de l'association de parents d'élèves? Qu'est-ce qui est ouvert comme médiathèque, piscine ou déchetterie ce jour dans ma commune? On a une vraie culture de ce service parce qu'on pense que les lecteurs n'achètent pas un journal uniquement pour lire du grand journalisme. Ils achètent aussi un journal parce que ça rend service. Et en effet, dans cette période de crise, on s'est aperçu que la demande de service était très élevée. Les lecteurs ne savent plus quand leur mairie est ouverte. les lecteurs ne savent plus s'ils peuvent aller à la déchetterie, ne savent pas si les cinémas sont ouverts. Enfin, il y a tout un tas d'informations qui sont recherchées. On a même élargi cette information aux horaires de commerce de proximité. On a élargi notre base de données service à tous les commerces en mode collaboratif, qui fait que tous les jours, on publie des pages entières d'horaires de petits commerces, aussi bien de la petite coop bio, du petit boulanger, au grand hypermarché. Parce que là, on se considère un peu comme un acteur de service, mais aussi en soutien à ces commerces qui essayent, vaille que vaille, d'accueillir les clients en cette période. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que la presse régionale a un rôle majeur.
Ce qui est certain, c'est que pour que la presse sorte la moins abîmée possible de cette crise, elle aura besoin de nous, ses lecteurs. Il y a plein d'offres d'abonnement qui ont été mises en place. Si vous avez quelques euros à y investir, ça peut être une bonne idée, je dis ça en passant. Merci à Jérôme Cazadieu et à Samuel Petit pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. On se retrouve, vous le savez, tous les jours aux alentours de 18h. Nous aussi, on tient la ligne à notre façon. Puisque je parlais d'abonnement à l'instant, n'hésitez pas, si c'est pas encore fait, à vous abonner vous aussi sur votre appli de podcast préféré pour ne manquez aucun de nos épisodes, venez sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram pour nous parler. Continuez surtout de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de rester chez vous si vous le pouvez. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau, au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.